Jouer. Et c'est un extrait d'une musique créée pour Yayoi Kusama, en tout cas un hommage en musique à Yayoi Kusama. Pierre Archambault qui est avec nous en studio, mon Dieu, c'est de la grande visite, il va s'entretenir avec Cheryl Sim, directrice générale et conservatrice Fondation FI pour l'art contemporain, au sujet de l'événement que je vous dirais de l'automne, une exposition consacrée aux œuvres de l'artiste iconique Yayoi Kusama, Dancing Lights That Flew Up to the Universe, c'est jusqu'au 15 janvier 2023. Je cède le micro à Pierre qui va débuter son entrevue.
Alors donc, bonjour Cheryl.
Oui, bonjour.
Vous m'entendez bien?
Oui, ça va. Oui, merci beaucoup. Et vous?
Oui, ça va. Donc, vous êtes commissaire de l'exposition de l'artiste japonaise Yayoi Kusama, née en 1929 à Matsumoto. Artiste polyvalente, s'il en est, qui, pendant les 70 dernières années, a réalisé des peintures, des sculptures, installations, œuvres graphiques, design, installations immersives, de la mode et la littérature. Rien de moins. Alors, est-ce que c'est vous, Cheryl, qui choisissez les expositions qui sont présentées au Centre FI ou s'il y a un comité?
C'est présenté à la Fondation FI c'est pas une exposition qui est en tournée, c'est une exposition qui a été faite vraiment sur mesure pour les espaces de la Fondation. C'est un peu une situation exceptionnelle. Comme Kusama, avec la pandémie, avait plusieurs expositions majeures en attente. Donc, quand il s'agissait d'organiser l'exposition ici, on avait vraiment affaire avec ce qu'il y avait en termes d'œuvres disponibles. Moi, j'avais plusieurs scénarios que j'ai proposés avec, c'est pour donner une idée de la vaste diversité de son travail, malgré le fait que ses questions sont toujours très constantes, très quelque chose qu'elle tient, elle a tenu à certaines thématiques tout le long de sa carrière. Donc ça veut dire que oui, j'ai choisi, mais c'était aussi une question de ce qui était possible à présenter, ce qui était disponible dans le monde à faire venir à Montréal. Donc ça nous a mis dans une situation où on était, en tant que commissaire, c'était comme être créatif à comprendre comment on pourrait tisser un voyage dans l'univers de Kusama. Mais malgré tout, je suis contente avec ce que nous sommes capables à présenter. Et j'avoue que c'est une exposition compacte, mais je pense que ça donne aux visiteurs et visiteuses une idée de l'aspect philosophique et spirituel de son travail qui était. C'est vraiment le but, en fait, de cette exposition.
Alors, si vous permettez, on va accélérer un petit peu. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, j'aimerais qu'on en fasse le tour. Donc, Yayoi a vécu à New York dans les années 60-70 avec une première exposition à la galerie Stephen Radish en 1961. C'est le médium peinture qu'elle explorait à cette époque, n'est-ce pas?
Ce qui est important, je pense, c'est de souligner la série Infinity Net Paintings qu'elle a commencé à créer à New York en 58. Parce que ça, c'est vraiment le départ, c'est où elle a commencé à comprendre ces grandes questions. Les Infinity Net Paintings a été vraiment la chose qui a dévoilé la question des points et des poids. Elle faisait des arcs sur des monochromes, des très grands tableaux qui n'avaient pas de centre. C'était ultra avant-gardiste pour l'époque. Et quand tu regardais dans l'espace négatif, ça dévoile les points et les poids. Et en allant vers les années 60, elle cherchait des moyens pour transmettre cette expérience, d'être complètement oblitéré par ses points, parce que ça, c'était un peu sa question, c'est quoi sa position dans l'univers en tant qu'une personne, en tant qu'une personnalité, qu'une âme. Et elle avait très peur de se disparaître dans cet univers. Donc ça, c'était sa grande question. Puis aller vers les années 60, c'était l'utilisation de miroirs qui a fait en sorte qu'elle pouvait transmettre ça de manière beaucoup plus efficace et que les visiteurs pourraient sentir un peu cette oblitération, eux et elles-mêmes.
Elle a même été invitée à la Biennale de Venise en 1966. Est-ce qu'elle représentait le Japon ou les États-Unis?
En fait, ça, c'était son propre élan. Il y a beaucoup de rumeurs qu'elle s'est, comme...
Invitée elle-même?
Oui, c'est ça. Qu'elle a pris son propre...
Initiative?
Décision de se mettre au milieu du jardinier. Mais en fait, elle était invitée, mais pas pour nécessairement pour représenter un pays. Et de faire un projet. Et elle a fait le projet Narcissus Garden, qui était ces balles, ces sphères en aluminium dans lesquelles on peut voir notre propre réflexion. Et en plus, elle a vendu ces sphères aux visiteurs et visiteuses pour à peu près 200 lira, 2 dollars américains à l'époque. Donc, tu sais, elle était aussi très comme consciente de nos préoccupations avec nous-mêmes, avec nos propres tendances narcissiques. Aussi, étant donné que les collectionneurs sont aussi intéressés à collectionner pour comme une extension de leur propre ego. Alors ça, c'est sa contribution, je pense, à cette histoire de l'art.
Mm-hmm. Les points sont généralement en couleur et sont des représentations d'elle-même et de nous dans l'univers infini. Est-ce qu'elle a élaboré par des textes l'aspect philosophique de sa fascination pour les poids et les points?
Dans ses textes, vous voulez dire?
Oui.
Est-ce qu'elle exprime ça?
Oui.
Mm-hmm. Elle commence à faire de la littérature avec un premier roman qui est apparu au début des années 80. Et oui, je pense que c'est ce premier roman qui s'appelle Manhattan Suicide Addict, ça parle encore une fois de ces préoccupations qui sont soulevées par cette ambivalence d'être à la fois un avec l'univers et aussi disparaître dans l'univers. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant est qu'elle est une poète aussi et sa poésie démontre aussi un autre aspect d'exploration de cette préoccupation. En fait, c'est la liaison entre la nature et le cosmos et notre place en faisant partie de la nature et l'univers. Et ça apparaît beaucoup dans ses textes.
Elle a muté du bidimensionnel au tridimensionnel avec ses cubes miroirs. Et est-ce qu'elle aurait été influencée par l'artiste américain Lucas Samaras, qui lui aussi a déjà créé des œuvres en miroir?
Mm-hmm. Elle a commencé à côtoyer certains artistes, je pense plus à Michelangelo Pistoletto.
Ah oui.
Parce que elle commençait dans les années 60, début des années 60, à exposer en Allemagne, en Europe. Et ça, c'est quand elle a rencontré ces artistes et il y avait un déclic absolument de comment le miroir, comment elle pouvait servir du miroir pour multiplier les points et fragmenter la réflexion d'elle-même et aussi des visiteurs, visiteuses, et c'était beaucoup plus efficace.
Et agrandir l'espace.
Oui, bien sûr.
Alors,
oui.
Pendant son long séjour à New York, elle a fait les performances où la nudité en public était de mise. Quelques mots sur ses expérimentations. Mmh. Qu'est-ce qu'elle voulait exprimer?
Mmh. ça, il faut se rappeler que c'était plus vers la fin des années 60 qu'elle a commencé à explorer plus la performance. Et c'était l'époque de la guerre au Vietnam et elle était très touchée, affectée par cette guerre et elle voulait faire quelque chose. Donc avec ses performances, elle était très comme... Son studio était fréquenté beaucoup par les hippies et elle était un petit peu comme vue comme une déesse, une prêtresse de l'art. Et elle a travaillé avec beaucoup de gens dans ses performances. Et le plus fameux, c'était au moment en arrière dans le jardin, dans la, tu sais, où il y a la fontaine et les sculptures. Elle a invité une douzaine à peu près de personnes, hommes et femmes, à venir à un certain moment où elle a donné un signal. Ils ont commencé à enlever leurs vêtements et à s'embrasser et les choses se sont évoluées. Et ça a créé une frénésie médiatique et c'était juste le début. Elle faisait probablement une vingtaine de ses performances à New York, puis elle a été invitée à les faire en Europe aussi. Et ça, c'était, je pense que vraiment quand son renom et son travail et elle-même, son propre persona est devenu extrêmement bien connu autour du monde. Peut-être il y avait une notoriété qui n'était pas toujours positive pour elle, surtout au Japon, où quand le média a pris connaissance de ses performances, c'était pas vu de manière très favorable, qui a beaucoup blessé Kusama. Mais ceci dit, ses performances lui a rendu vraiment un artiste fameuse.
Et en ce qui concerne les sculptures, c'est la thématique des citrouilles coulées en bronze poli. Pourquoi elle a choisi les citrouilles et est-ce qu'elle a utilisé aussi d'autres objets en trois dimensions?
Le citrouille, c'est quelque chose qu'elle a découvert en marchant dans les champs autour de sa maison avec son grand-père et elle était très touchée par la forme. Elle a trouvé qu'il y avait une spiritualité très humble et très digne. Le citrouille est devenu son objet d'étude préféré quand elle a étudié à Kyoto pour se consacrer à un style de peinture japonaise qui s'appelle Nihonga. Et ça, c'est une pratique où on veut sortir l'âme ou étudier l'âme d'un objet, d'un sujet, et le rendre hommage dans le tableau, dans la peinture. Et la citrouille était son objet. Elle se levait super tôt le matin pour contempler le citrouille dans son studio et à passer des heures à faire un dessin après l'autre. Elle voulait vraiment élever le statut du citrouille aussi parce que dans la culture japonaise, être comparé à une citrouille n'était pas quelque chose de très complémentaire. Alors, c'était aussi une façon de rendre hommage à cette forme, à cette chose qui émane autant d'humanité et de spiritualité.
Et dans une des salles, on peut voir huit grands formats, huit toiles carrées amorcées en 2009. Est-ce que c'est une série qu'elle poursuit et elle en a réalisé combien de ces toiles-là?
Oui, c'est une série qu'elle a commencé en 2009. Elle a pensé faire 100. Ils sont toujours la même dimension, le même matériau. Et elle pensait faire à peu près 100. Et elle finit par avoir fait à peu près 800 de ses tableaux, de cette série qui s'appelle Eternal Soul. Ils sont extrêmement colorés. Ça, c'est un retour un petit peu à son instinct plus animiste, où on trouve c'est la fragmentation des yeux, des formes immeubles, les plantes, les fleurs et aussi les filets. aussi, elle se met aussi dans ces tableaux-là. Mais je ne sais pas si elle continue à les faire, mais c'est sûr que elle produise toujours. Elle passe 8 heures au studio tous les jours, donc un artiste qui est entièrement dévoué à sa pratique, toujours.
Alors évidemment, il y a les spectaculaires chambres miroirs dans lesquelles on entre pour expérimenter l'infini de l'univers. Alors, ça se déroule un à la fois avec un temps très précis d'expérimentation, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Mais il y a 20 de ces salles miroirs infinies dans le monde. Elle a créé 20. Nous avons 2. On a la plus récente qui a été créée en 2019 et une autre qui a été créée en 2014. Et étant donné que ces expositions créent une frénésie totale où il y a un immense nombre de visiteurs, depuis, je dirais, 7-8 ans, il fallait installer comme un protocole parce que son intention, c'est qu'il y a, pour certaines, il y a certaines chambres, certaines salles où il peut avoir 4 personnes à la fois. Mais les 2 que nous avons et plusieurs, c'est juste une personne à la fois, idéalement. Et pour que il n'y ait pas une file d'attente qui est aussi infinie, Il y avait un protocole qui a été installé par le studio pour que les gens restent à l'intérieur soit 30, 45 ou 60 secondes. Nous avons choisi 45 secondes et nous conseillons les gens à, s'ils veulent prendre des photos, c'est absolument bienvenu, c'est correct, mais de prendre le temps, de prendre les au moins 40 secondes pour être présent et à absorber le moment dans ces œuvres.
Et il y a aussi une salle qui est consacrée à des photographies qui dévoilent son parcours artistique et sa vie privée. Est-ce qu'elle documente elle-même tout son parcours ou si vous avez fait des recherches un peu partout pour...
Ces photos que nous avons sont aussi présentées au Tate Modern. Donc, on a les mêmes photos. Peut-être la chose plus à remarquer est qu'elle avait déjà en tête, elle avait déjà une stratégie dans les années 50 de se faire photographier avec ses œuvres. Et ça, c'était très important parce qu'une femme japonaise à cette époque était très invisible. C'était très difficile, même être femme, tu sais, c'était très difficile d'être remarquée. C'est encore, et c'est toujours le cas, mais c'est extrêmement dur d'être une femme dans l'art. Et pour se faire remarquer, pour prendre place hein, et prendre de l'espace, elle s'est fait faire photographier dans ses œuvres. Avec le temps, elle est très bien, très comme consciente de ce que ça peut faire. En termes de l'image, dans l'imaginaire des gens. Et elle était extrêmement, maligne, je pense, mais dans le bon sens. Parce que maintenant, quand nous pensons à Kusama, nous pensons au poing, nous pensons au citrouille, nous pensons à toutes ces choses, mais on pense aussi à cette femme artiste qui a jamais, jamais cessé de poursuivre son travail.
Alors, l'exposition se poursuit jusqu'au 15 janvier, mais je crois qu'il n'y a aucune possibilité actuellement de visiter l'exposition. C'est complet.
Oh, j'avoue que ça, c'était la chose qui était le plus difficile à négocier. On a cherché d'autres moyens pour accéder les gens à l'exposition. Je pense que oui. On a lâché à peu près 5 000 billets par mois. Qui a été toujours comme pris en bas d'une heure. Donc, ça montre comment le Montréal est comme toutes les autres grandes villes du monde. Il y a une soif pour l'art, il y a un désir d'expérimenter les œuvres du Kusama. Mais je dirais que, en fait, le mardi matin, il y a toujours, je pense, les visites guidées où on accepte les gens sans réservation. Je conseille tout le monde à comme consulter le site web pour être certaine, mais ça, c'est une belle façon de voir l'exposition avec les explications d'un de nos super coordinateurs, coordinatrices à l'expérience des visiteurs-visiteuses.
Alors, en se quittant rapidement, vous célébrez les anniversaires au Centre Phi. Quel est le mandat, en quelques mots, de ce centre?
Oui, en fait, c'est pas le Centre Phi. Il faut que j'explique qu'on est deux entités séparées. Nous sommes la Fondation Phi pour l'art contemporain, qui existe depuis 2007. Donc, effectivement, nous célébrons notre 15e anniversaire. Notre mandat était de présenter...
Alors, malheureusement, on doit vous quitter. Alors, merci beaucoup, Cheryl Sim, et on se revoit dans un autre moment. Je vous remercie.
OK. Bye.
Oui, alors, une première exposition en sol québécois de Yayoi Kusama, vraiment, pour célébrer les 15 ans de la Fondation Phi. Vraiment, tout un événement.